acclamation au Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouh. Wow. Pouvez-vous reprendre place? C'est chaud dans ce lieu ce matin. Amen. Amen. Alors j'espère que tout le monde a une place assise. On a dû rajouter encore des chaises. On avait le même problème au premier culte. Donc je suis reconnaissant de cette croissance extraordinaire que Dieu nous donne parce qu'il y a ici une présence de Dieu. Et je suis très inquiet. Alors je dis, Seigneur, vite, 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 ton peuple a besoin d'une nouvelle salle. Ton peuple a besoin d'une nouvelle salle. J'espère que vous priez pour ça tout le temps. J'ai besoin de, que vous saturiez vraiment le trône de Dieu de prière pour une nouvelle salle. Je suis en contact pour pouvoir acheter un nouveau bâtiment capable d'accueillir 800 personnes, rien que pour la salle de culte, avec plus de 2000 mètres carrés, probablement 3000 au total. On a besoin d'un nouveau lieu pour l'Évangile. Et quand je vois qu'on n'est qu'au mois de mars, et que les deux premiers cultes sont pleins, que le troisième culte est en train de grandir de façon considérable, je prie pour qu'on tienne le plus longtemps possible, mais si Dieu a d'autres projets, vite Seigneur, vite Seigneur. On ouvre ensemble dans le livre des juges. Y a-t-il des personnes qui nous visitent ce matin? Soyez bénis. On veut vraiment vous dire qu'on est heureux que vous soyez là. S'il y avait un slogan, une caractéristique à cette église, je voudrais que ça soit Créteil, une église où il fait bon vivre. Amen. Allez, dans le livre des juges, on a commencé une série et la bande-annonce va passer sur vos écrans tout de suite.
Le temps des juges. La Bible nous dit qu'à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dans son amour, Dieu fit lever des hommes et des femmes ordinaires pour sauver son peuple de façon extraordinaire. Ce sont les juges. Déborah osera-t-elle se lever malgré les difficultés de son quotidien pour devenir un leader exemplaire quand d'autres fuient leurs responsabilités? Gédéon saura-t-il surmonter ses complexes pour devenir un leader exemplaire face à la tentation de l'argent? Samson saura-t-il surmonter son passé d'homme trompé pour devenir un leader exemplaire face à la tentation du désir? Et enfin, Jephté saura-t-il surmonter le rejet dont il a souffert pour devenir un leader exemplaire face à la tentation de l'isolement? Et toi aujourd'hui, comment vas-tu utiliser la liberté que Dieu t'a donnée? Vas-tu en profiter pour faire n'importe quoi?
C'est vrai qu'être libre, c'est merveilleux. Ça nous donne des responsabilités. Ça nous donne des responsabilités. On ouvre ensemble dans le livre des juges, vous avez compris. Aujourd'hui, on va étudier cet extraordinaire personnage qui est Gédéon. Mais à la base, Gédéon, c'est quelqu'un de très ordinaire. Et ça me rassure parce que Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est peut-être toi, c'est peut-être à toi que Dieu s'adresse ce matin. Alors, l'histoire commence parce que c'est un peu cyclique dans le livre des juges. Après Déborah, vous étiez là quand on a étudié ensemble Déborah? On a vu Déborah, une femme de Dieu. Ouh ! Je suis content que lorsque tout le monde fuit leurs responsabilités, Dieu arrive encore à trouver des femmes qui se lèvent et qui tiennent bon quand d'autres fuient, des femmes qui se lèvent et qui disent « Nous, moi, ma maison servira l'Éternel et on est prêt à donner pour Dieu. » On est prêt à donner pour Dieu. Et Déborah, c'était quelqu'un qui avait quand même toutes les raisons de ne pas de craquer, elle avait tellement de pression, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Puis à un moment, alors qu'elle a été fidèle pendant des années, elle a une prophétie, elle avait gardé son enthousiasme, elle a une prophétie pour Barak, elle lui dit « Va, on a la victoire, on va être délivré des ennemis d'Israël. » Et Barak va lui répondre cette réponse cinglante. « Si tu ne vas pas, je ne vais pas. » Comment tu réagis, toi, alors que tu es déjà fatigué et que tu as fait tout ce que tu devais faire? Si Dieu ou un de ses enfants te demande, j'ai besoin d'encore plus, d'aller au-delà de tes limites. Et Déborah, au lieu de s'énerver, au lieu de se plaindre et de bouder, malgré son âge, a dit « s'il faut en faire plus, j'en ferai plus ». Non seulement j'ai donné, mais maintenant je vais me donner. Ouh ! Ouh ! Et là, cette femme a vu une victoire extraordinaire. Mais, encore une fois, les Israélites ont fait ce qui leur semblait bon et ont utilisé la liberté que Dieu leur avait donnée pour faire n'importe quoi. Alors, Dieu a permis que pendant 7 ans, il se passe un grand malheur que l'on lit au chapitre 6, au verset 2. L'oppression des Madianites, c'est des bédouins du désert, les Madianites, fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et les autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays, détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux, leurs chameaux, ils étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ça descend très vite. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que je suis le seul qui ait vu ça. Moi, j'ai vu, je peux le dire, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont connu Dieu, qui ont connu des Déborahs, qui, tant que Déborah était en vie, ça allait. Et puis, lorsque Dieu a enlevé un appui, une femme ou un homme de prière, de consécration à côté d'eux, ils se sont laissés couler dans le flot. Et très vite, ça descend, mes amis. Parce que le diable a des armées de sauterelles contre vous, hein. Et les armées de sauterelles, comme ces bédouins du désert qui arrivaient avec leurs chameaux, arrivaient, faisaient des razzias, détruisaient les villages, enlevaient les femmes, etc. C'était une horreur. Tout le pain, il restait rien. Alors les Israélites avaient pris cette habitude, c'est de se cacher dans les rochers. C'est triste, mes amis. Et je crois que peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être tu as tellement de fardeaux dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, par rapport à tes conjoints, ce qui se passe au travail, l'ambiance qui est détestable. Et tu passes ton temps à te cacher dans les rochers. Mais Dieu cherche, puisque Déborah n'est plus, un homme qui va se lever et qui va dire « Je continuerai ». Et c'est ce que l'on voit dans le chapitre 6 au verset 11. L'ange de l'Éternel, ah vous savez que l'ange de l'Éternel, il ne sommeille ni ne dort. Il regarde ce qui se passe, vint s'asseoir sous le chêne que l'on trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, ah, c'est celui-là qui nous intéresse ce matin. Fils de Joas était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Amen. Ouh, dis à ton voisin « L'Éternel est avec toi. » Eh ben dis donc, vous n'êtes pas si vaillant que ça, hein. J'espère que votre voisin n'a pas une déficience dans l'oreille parce qu'il n'a rien entendu. L'Éternel est avec toi. Amen. Vous savez pourquoi vous avez du mal à lui le dire? Parce que vous en doutez peut-être même pour vous. Et souvent, on a du mal à souhaiter aux autres ce que l'on n'arrive déjà pas à avoir soi-même. Est-ce que tu réalises que l'Éternel est avec toi? Je voudrais voir 3 choses ce matin. Gédéon va présenter, c'est toujours pareil, hein, dès que Dieu nous challenge, dès que Dieu nous demande de nous lever, la première chose que l'on répond, c'est ce que va faire Gédéon, c'est « Et Dieu, excuse-moi, mais pas moi. Le prends pas mal, mais pas moi. Les excuses que tu présentes. » Ensuite, parce que Dieu connaît très bien tes limites, il connaît très bien tes limites, mais avec sa méthode, tu peux faire des prodiges. Alors on va voir la méthode de Dieu, très déroutante. Je ne sais pas si vous avez toujours compris ce que Dieu a fait dans votre vie. Moi, je n'ai pas toujours compris. Dieu m'a fait faire des zigzags des fois. J'étais « Ouh Seigneur, t'es sûr que c'est la meilleure route ?» C'était la meilleure route. Et puis enfin, on terminera, parce que c'est aussi le thème de ce matin, de tous ces livres des juges. Méfiez-vous, parce qu'avec vos responsabilités et le succès que Dieu vous donnera, il y a des pièges. Et c'est le piège qui va guetter Gédéon, c'est le piège de l'argent, le piège du pouvoir. Alors dans ce livre des juges au chapitre 6 au verset 13, on va voir ce que ta voisine, ton voisin a répondu lorsque Dieu dit « L'Éternel est avec toi ». Alors pour Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur ». Vous savez ce que ça veut dire « de grâce » C'est une façon spirituelle de dire « Quelle blague ». Mais bien sûr, il n'y croit pas du tout. De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous avait fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Vous savez, la première excuse et pourquoi on va pas se bouger. Gédéon, il répond, lorsque Dieu lui dit, « L'Éternel est avec toi », il répond, « On ne me la fait pas à moi. » J'ai trop entendu de prédicateurs me dire ça. J'ai eu trop de sœurs qui sont venues à la fin d'un culte me trouver en me disant, « Tu sais, ma sœur, Dieu va te bénir, toi et tes enfants. » Et t'y crois plus. Et t'y crois plus. Vous savez pourquoi Gédéon dit, « De grâce, mon Seigneur, on ne me la fait pas. » Arrête. Dès le début de cette prédication, je mets les pieds dans le plat. Vous êtes venus des blasés. Je parle à toute personne qui a traîné suffisamment dans une église évangélique. Vous avez un risque de devenir des blasés parce que vous n'êtes plus capable de croire la parole de Dieu. Ouh ! Votre silence en dit long. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que Gédéon va répondre quelque chose de très logique. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est lorsque l'on vous dit une croyance ne correspond pas avec ce que vous vivez, votre réalité. Et là, je suis sûr que ça te concerne ce matin. Ce que Gédéon répond à l'ange qui vient de la part de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Il répond à l'ange de l'Éternel, premièrement, si l'Éternel était avec nous, comme tu me le dis, alors on ne vivrait pas autant de malheurs. Il y a un décalage, Dieu, entre ta parole que je lis ce matin et ce que je vis tous les jours. Ouh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte, de dire, mais je lis ce psaume dans mon culte personnel qui me dit, l'Éternel sera avec toi que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche. Mais toi, tu dis, mais c'est pas vrai au travail. C'est moi qui me suis fait virer. Tu regardes par rapport à tes finances, tu dis, la prospérité de l'Éternel, il ne manquera de rien. Tu dis, ouais, mais ma fille, j'aurais bien aimé pouvoir lui offrir ça. Et du coup, tu es en dissonance, tu dis, mais d'un côté, j'entends la parole de Dieu, mais de l'autre côté, je ne la vis pas dans mon quotidien et ça me met mal, Seigneur. Alors je vais te répondre tout simplement, de grâce, arrête ta prédication déjà. Parce que des paroles de Dieu, j'en ai entendu et à l'heure actuelle, je ne les vois pas dans ma vie. C'est ça que répond Gédéon. Et je remercie Dieu d'avoir glissé ce texte dans la Bible pour te montrer que tu n'es pas le seul à le vivre. Parce que Gédéon l'a vécu aussi. Et je vais te dire une chose, tous les grands hommes de Dieu l'ont vécu aussi, tous les grandes femmes de Dieu l'ont vécu aussi. Mais même si tu es rempli de doutes, que toi qui étais censé être un vaillant guerrier d'Israël, tu es en train de battre ton froment, tu es en train de battre ton grain, ton blé, tu es en train de le faire dans un pressoir caché, planqué. Eh bien Dieu dit, malgré ça, je considère que tu es un vaillant guerrier. Est-ce que tu entends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, alors que toi tu te considères comme un raté spirituel, pardonne-moi l'expression, mais c'est vrai. Je crois que quand on est en train de se planquer pour essayer simplement de battre un petit peu des épis dans un coin paumé, perdu, bien à l'abri, bizarre, on se culpabilise, on dit « Seigneur, ma vie de prière n'est pas à la hauteur, ma consécration n'est pas à la hauteur, je ne suis pas assez engagé, etc. » Il y en a d'autres, Seigneur, des meilleurs que moi. Et Dieu dit, mais Gédéon, oh, c'est à toi que je parle. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Ma réalité, Dieu, ne correspond pas à cela. Je ne me considère pas comme un vaillant guerrier. D'ailleurs, je ne vois même pas Dieu. Et en plus, deuxième aspect, regardez ce qu'il dit. Il dit, J'ai entendu mon père parler de toi. J'ai entendu mon grand-père. Mon grand-père m'a raconté qu'un jour, soi-disant, il y avait une mer et vous étiez venus. Et vous avez tous traversé parce que Dieu avait séparé l'eau en deux. C'est quoi ces histoires, Seigneur ? Parce que moi, quand je demande, est-ce que Dieu, tu peux me guérir ? Ben, je ne suis pas guéri. Alors moi, je suis fatigué, Seigneur, d'entendre des témoignages de Huguette, de Jean-Pierre qui ont eu la grâce de Dieu. Et je me dis, mais moi, où ? Pourquoi moi, ça ne marche pas quand je prie ? J'ai entendu des histoires de mon père, mais est-ce que je le vois aujourd'hui ? Et c'est pour ça que Gédéon, il est en dissonance cognitive, parce que ce qu'il entend de la part de Dieu ne correspond pas à ce qu'il vit, et ce qu'il entend de ses conseillers spirituels, que sont son père, son grand-parent, sa grand-mère peut-être, ne correspond pas à ce qu'il vit lui. Alors voilà, tu as deux bonnes excuses de dire à Dieu, je ne ferai rien. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Se tourna vers lui. Ton problème, si tu penses ça, si tu penses comme Gédéon ce matin, je vais te dire ton problème. Ton problème, c'est que tu as une relation trop indirecte avec Dieu. Et c'est pour ça que tu es en dissonance cognitive. Alors l'Éternel se tourne vers toi, comme il se tourne vers Gédéon, et il te prend en face à face. Et l'Éternel prie Gédéon en face à face. Il ne passe plus par les pères, il part plus parce que les autres disent, parce que le prédicateur va lui dire. Il dit, oh, t'entends plus la voix de Dieu, toi, oh, t'as trop traîné dans les églises. Alors je vais te prendre face à face tout seul, toi et moi dans un coin, et on va se parler. Depuis combien de temps t'as pas parlé face à face à Dieu dans un coin ? Depuis combien de temps t'as pas pris un moment stop avec Dieu, alors que tu es dans toutes tes activités, dans ton pressoir, en train d'essayer de faire tout ce que tu peux pour sauver ta famille, pour qu'il y ait encore quelques pains à manger demain ? Dieu dit, oh, fais une pause, je te vois face à face, là, tous les deux, on va se parler. Il y a des trucs que tu n'as pas digérés contre moi. Il y a des trucs que tu as gardés dans ton cœur et qui gâchent ta vie aujourd'hui. Mais je vais te dire quelque chose. En tant que Dieu qui voit tout, je vais te dire, cache ce que je pense de toi. Alors vous savez, moi, si Dieu me dit ça, j'aurais tendance à dire, oh, je viens de dire deux grosses bêtises, je vais me faire allumer par le Père Céleste, d'accord ? Il vient de dire deux trucs énormes contre Dieu, d'accord ? Moi, j'aurais tendance à mettre ma main déjà pour me dire, Seigneur, si tu tapes, tape pas trop fort. Et Dieu va lui dire, après cette grande déclaration d'incrédulité, va avec la force que tu as. Il s'approche de Dieu, il lève sa main et Dieu lui fait un bisou, un smack. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas comme tu penses. Parce que Dieu n'est pas comme tu penses. Tu sais quel est le grand piège de l'adversaire ? C'est que dès le début de ta prière, ta relation avec Dieu soit faussée. Que tu vois Dieu comme quelqu'un qui va t'attraper parce que tu ne fais pas assez, jamais assez. Ben, c'est faux. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et quand tu es dans le lieu secret, commence en disant « Mon papa qui est au ciel, pas mon président !» Pas mon inspecteur des impôts, pas mon chef à la maison, mon Père, notre Père qui est aux cieux. Et Dieu lui dit, mais Gédéon, oh, et tu crois que je ne sais pas que tu t'es planqué ? Ben, ça ne me fait rien, parce que tu fais quand même partie de mon peuple, tu as mon ADN, tu es partie de mes enfants et je vois en toi un potentiel que tu as oublié parce que tu ne réalises pas que j'ai des projets sur ton cœur. La réalité t'a mangé, mon gars. Réouvre les yeux parce que Dieu voit autre chose en toi. Il devrait y avoir quelques amen. Ce que j'entends des pères, ce que je vois de ma vie, je cherche quelqu'un, dit Dieu. Je cherche quelqu'un ce matin. Qui soit capable, alors que les autres se cachent dans les cavernes, de sortir. « Ah, oh, je ne demande pas grand-chose, dit Dieu. Je demande juste quelqu'un qui a le courage d'aller dans un pressoir et commencer à essayer de faire quelques pains. Parce que quelques pains, c'est mieux que rien du tout. Alors arrêtons aussi le discours spirituel dans les églises où soit tu es un champion de Dieu, un évangéliste international, tu es à temps plein pour Dieu. Gédéon n'est pas à temps plein pour Dieu. Gédéon, il a gardé son job. Et pourtant, Dieu dit, t'es un vaillant héros. parce qu'il y a plus de mérite des fois à garder ton travail, à faire tout ce que tu peux pour Dieu, que de partir dans un rêve à évangéliser en Inde. Parce que tu partiras jamais, ce n'est pas ton appel. Alors arrête de croire que tu es rien, soit tu es tout ou rien. Ça, c'est un problème qu'on a. Alors je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Arrête de croire que tu es nul parce que tu n'es pas aussi consacré que tu penses. Dieu préfère ta réalité plutôt que des envolées lyriques lors d'une prière un dimanche matin. Et Dieu voit Gédéon qui fait tout ce qu'il peut avec le peu qu'il a et il dit voilà, rien que pour ça, tu es un vaillant héros. Il y a plus de mérite, mes amis, à élever un enfant malade tous les jours à se lever, à le nourrir à la cuillère et à dire « Seigneur, aide-moi ». Il y a plus de mérite à cela. Parce que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, un esprit humble. Et Dieu leur dit « Tu es un vaillant héros, tu as tenu le choc. Tu as tenu le choc malgré ton mariage difficile, tu as fait tout ce que tu as pu pour tes enfants. Eh bien, je suis avec toi. Arrête de croire que je suis fâché contre toi. Arrête ce matin tous ensemble. Arrêtez de croire que Dieu est forcément fâché contre vous. Je suis celui qui te bénit. Je suis ton Dieu, je bénis. » Gédéon est rempli de complexes. Il répond après ça, il dit, ma famille, j'ai une famille, Seigneur. Tu savais comment elle marche pas, ma famille. Verset 15, Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur. Deuxième fois qu'il dit de grâce, allez, arrête. De grâce, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? T'es sérieux, Seigneur? T'as vu mon compte en banque? T'as vu ma sœur, c'est une hystérique. Ma mère, elle fait de la sorcellerie. Je sais pas, moi. Lui, son père, il avait des idoles de Baal. Hein. C'était craignos. Hein. Il avait une famille qui allait pas du tout. Hein. Famille polygame, le papa à fond dans son idole, sa statue de Baal, etc. Il dit, mais t'as vu ma famille? Est-ce que tu as vu la tête de ma famille, Seigneur? Et tu viens me chercher? Et tu veux que je devienne, je me lève pour toi? Je suis elle est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites. Tous ensemble, même s'ils sont tous ensemble, tu les battras. Vous dites un petit amen parce que vous avez du mal à digérer la première étape de Gédéon. On arrive dans la deuxième étape, vous ressortez votre deuxième série d'excuses en disant « Seigneur, franchement, il y en a d'autres qui ont une vie plus équilibrée que la mienne et tu as vu mon passé, Seigneur. Toutes les bêtises que j'ai faites dans le monde, comme on dit. C'est moi que tu veux utiliser ? Seigneur, déjà ma mère, elle est craignante. Mon père, il ne m'a jamais parlé de Dieu. Tu veux que j'aille dans les écoles du dimanche ? Tu veux que je prêche aux enfants ? Seigneur, je ne suis pas très top, non ? Et Dieu dit, oh, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On va changer tout ça. On va changer tout ça. Tu avais une réputation de quelqu'un de fermé. Dieu va faire de toi une star du sourire et de l'accueil dans l'église. Vous savez, une star, une étoile. Une étoile qui brille. Des fois, c'est simplement parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Que tu puisses refléter la lumière du soleil. C'est ce que Dieu dit. Il dit, tu vas pouvoir briller, Gédéon. Mais je suis à moitié d'accord, dit Dieu avec toi. Tout seul, tu ne pourrais pas. Mais tu sais pourquoi tu vas réussir à battre tous les Madianites? Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est en face de toi. Il y a en toi un trésor que Dieu a placé. C'est comme une capsule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gélules. Vous savez le principe des gélules. C'est comme si Dieu dit, Gédéon, oh, tu as une petite gélule qui à l'intérieur peut donner la vie à ton organisme. J'ai des vitamines spirituelles pour toi ce matin. Des vitamines spirituelles pour toi ce matin. Dieu est avec toi, arrête tes complexes. Et pour terminer, Gédéon va avoir ce dernier doute. Parce qu'en sortant de l'église le dimanche matin, en ayant fini la prédication sur Internet, je ne sais pas, j'ai dit ça m'a fait du bien ce culte. Ça vous arrive des fois d'avoir des pensées de Dieu. Vous êtes gonflé à bloc, d'accord? Et après, pourquoi des fois vous ne faites rien? Pourquoi alors que vous dites, mais Dieu m'a parlé, vous sortez du culte en disant, ah, c'était bon ce matin, on a eu une parole de Dieu. Mais lundi matin, il n'y a plus personne. Vous savez pourquoi? il va s'être arrivé ce troisième doute chez Gédéon. Le premier doute, c'était le doute sur la parole de Dieu. Le deuxième doute, c'était sur lui-même. Le troisième doute, il va se dire, et si ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé? Et si en fait, la personne que j'ai vue, qui m'a parlé, ben, c'était quelque chose d'humain? Si c'était juste de la psychologie? Si c'était juste un visiteur de passage et que ce n'était pas l'ange de l'Éternel? Ouh, ouh, ça t'arrive ça. Le dimanche, t'es persuadé que c'est Dieu, mais mardi, t'as oublié que c'était Dieu. Tu dis, peut-être que le pasteur, il me semblait qu'il parlait de moi, mais peut-être que c'était quand même un hasard. Peut-être que c'était pas vraiment moi. Peut-être qu'il y avait eu quelqu'un d'entretien qui était assez proche de moi. Tu sais ce que Dieu te dit? Vaillant héros, malgré tes doutes et tous tes trucs là, vaillant héros. Ça mériterait deux claques, t'as le droit de deux bisous. Et Dieu dit à Gédéon, ok, t'as encore des doutes, d'accord, eh bien je m'habitue puisque c'est ton caractère. Alors je vais te donner un dernier signe. Et Gédéon dit à l'ange, reste là, je vais te préparer une offrande et on va voir si t'es vraiment de Dieu. Si tout ça c'est de Dieu parce que ça me dépasse. Alors il va préparer une offrande, il arrive et puis l'ange de l'Éternel avec son bâton touche et il y a tout qui s'enflamme. Et là Gédéon, c'est le verset 22, il en panique. À ce moment-là, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria « Malheur à moi Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face !» Donc il a déjà la trouille encore. L'Éternel lui dit « Mais rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix. » Répète ça. L'Éternel assure la paix. L'Éternel assure la paix. C'est ce que j'ai besoin d'entendre de Dieu ce matin. C'est ce que tu as besoin d'entendre de Dieu. Dieu dit tu es paralysé, tu es tétanisé parce que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu as une dissonance cognitive entre ce que tu vois et ce que tu entends de Dieu. Et tu dis, je ne sais plus. Et tu n'es pas en paix avec toi. Et Dieu dit à Gédéon, l'Éternel assure la paix. Arrête de craindre Dieu. Il y a des projets géniaux pour toi. Bon, juste pour la méthode. Je n'ai pas beaucoup de temps pour la méthode, mais il faut quand même qu'on dise un petit peu. Allez, c'est dans le chapitre d'après. Juges chapitre 7. Vous pouvez prendre ensemble Juges chapitre 7. Dieu ne veut pas seulement... Écoute cette phrase. Si tu n'es pas endormi, écoute cette phrase. Dieu ne veut pas seulement t'offrir la victoire, il veut te l'offrir, mais qu'elle ne soit pas mal interprétée. Dieu veut t'offrir une histoire qui soit magnifique. Dieu veut t'offrir une histoire extraordinaire alors que tu es quelqu'un d'ordinaire. Mais il y a juste une crainte que Dieu a. Il ne veut pas que tu interprètes mal ce qu'il fait pour toi. Alors c'est ce que l'on va lire pour apprendre la méthode de Dieu dans le Juge 7, verset 1er. Le lendemain matin, Yerubaal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp à Ein Harod. 32 000. Les forces en présence, côté israélite, armée de Dieu, 32 000. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, non? 32 000. Imaginez si vous deviez affronter des problèmes avec 32 000 amis. Ça va mieux, quand même. Si vous aviez 32 000 personnes qui étaient là pour vous soutenir financièrement, prêts à vous faire un chèque quand vous demandez. Ça serait formidable, Seigneur. Ouh ! Eh bien, t'en as pas besoin. Eh bien, t'en as pas besoin parce qu'il est marqué. L'armée des Madianites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. Ils sont 120 000 en face. Un peu plus de 120 000. Entre 120 et 135 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, ton armée, tes 32 000 là, est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Bizarre ça. Dieu va plus loin et dit, fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qui s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui. Et 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, il en resta 10 000. Quand Dieu fait du tri, c'est du tri. Hein. Non, c'est pas fini. L'Éternel dit à Gédéon, Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là, je trierai pour toi. Toi, Gédéon, t'as trié. T'as réussi à enlever les deux tiers. Maintenant, laisse-moi trier le finish. Ok ? Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. L'Éternel fit descendre les hommes au bord du torrent et l'Éternel dit, tu mettras de côté tous ceux qui lapent l'eau avec leur langue comme des chiens et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour apporter à la bouche et la laper comme des chiens. Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes. Le Seigneur dit, t'es trompé. Le test, il n'était pas bon. Si, si. C'est avec ces 300 hommes, des assoiffés, là, ceux qui ont lapé l'eau dans leurs mains, que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Et tous les autres, ils rentrent chez eux. Seigneur, tu t'es trompé. Il y a 9700 qui repartent, là. 9700 qui repartent. Et tous les autres rentrent chez eux. Alors la méthode de Dieu, je vais vous donner un petit peu les préférences de Dieu. Premièrement, Dieu préfère moins. Dieu préfère moins parce que il cherche un peuple humble. Dieu préfère moins parce qu'il préfère un esprit. Il cherche quelqu'un qui a un esprit petit à ses propres yeux. À propos de Saül, il avait dit « Tant que tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel était avec toi. » Quelqu'un qui ne se prend pas la grosse tête. Quelqu'un qui se dit « J'ai très très peu, Seigneur. » Parce que si jamais Dieu te laissait trop de choses, tu pourrais croire que c'est grâce à toi que tu as eu cet emploi. Si jamais Dieu te laissait trop et qu'il t'avait fait trop belle, tu pourrais dire « C'est grâce à mon physique de rêve que j'ai pu me marier. » Alors Dieu, vous voyez, il dit, je ne vais pas lui en donner trop, comme ça elle va continuer à comprendre que c'est moi qui donne. Et que celui que je bénis est vraiment béni. Alors là, il préfère moins. En plus, Dieu dit, laisse partir. Ouh, laisse partir, j'aime pas trop ça. Seigneur, tu as mal fait tes calculs. Il n'y a que 32 000 contre 120 000. On a un rapport déjà de 1 sur 4, c'est la cata, Seigneur. Et tu me dis que je vais devoir laisser partir? Non. Je voudrais parler aux femmes qui sont dans ce lieu. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans votre ADN. Les hommes, des fois, ils savent laisser partir. Hein. Mais il y a quelque chose dans les femmes qui a un instinct de stabilité, de retenue. Vous êtes programmés. C'est tout votre charme, votre force aussi. Vous êtes programmés pour vous accrocher, pour garder le bébé même s'il est malade. Vous êtes programmés pour garder, pour construire votre famille même si tout est contre vous. Et il y a des fois la difficulté à laisser partir. Mais il y a peut-être des relations, des personnes que toi, tu veux à tout prix conserver parce qu'elles te rassurent, parce que tu ne supportes pas l'idée d'être seule, etc. Et Dieu dit, oh, arrête d'essayer de garder quelque chose que je ne veux pas garder pour toi. Fais-moi confiance, il va y avoir 32 000 qui partent. Tu sais pourquoi ? Parce que les personnes que tu as avec toi sur les 32 000, il y en a 22 000 qui sont en train de jouer des castagnettes avec leurs genoux. Et ce bruit des castagnettes, des gling, 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 quand ils vont arriver en face de l'ennemi, ça va décourager les 10 000 qui restent. Vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends des fois que venir diviser avec des gens qui ont la trouille au ventre et qui derrière, ouh, on part? Ça, tu ne pourras pas gérer ça dans la bataille. Et Dieu dit, excuse-moi, mais je vais faire le travail à l'avance. On va les sauver, ces gens-là, on va les mettre à part. Tu vas accepter que je gère. Allez, tous ceux qui ont peur, chez vous. Si je me mets à la place de Gédéon, ça va. Je me dis, ok, il y a quand même un sens. Perdre 22 000 qui ont peur, ça se comprend. Et Dieu dit, troisième étape, je vais faire un tri. Sur les 10 000, je vais t'en enlever encore 9 700. Qui c'est qui fait le tri là? Le premier tri, c'était Gédéon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des relations, c'est à toi de les couper. Ce n'est pas Dieu qui va les couper. Je répète, il y a des habitudes, il y a des choses dans ta vie, il y a des personnes sur qui tu comptes, mais qui ne t'amènent pas vers le haut, qui t'amènent vers le bas. Et Dieu dit, ça, c'est à toi de t'en séparer. Et ça fait 22 000 personnes en moins. Mais Dieu dit, une fois que tu as fait ça, il reste encore trop de monde. Et le reste, puisque je sais que tu n'auras pas la force de le faire, c'est moi qui vais trier pour toi. Et Dieu les amène au torrent et il regarde ceux qui boivent de façon prudente et stable, équilibrée, qui se mettent à genoux et qui font 9700. 9700 très équilibrés. Ils n'en font pas trop, ni trop peu. Ils boivent proprement, délicatement, dans la gamelle. Et puis, il y en a 300, un peu bizarres, des assoiffés. Je me rappelle mon collègue Lassie, une demoiselle. Quand je lui mettais des croquettes, il y avait un changement de personnalité chez elle, dis donc. Si j'essayais d'approcher ma main de ces croquettes, je dis, mais oh, Lassie, t'as un problème psychologique ou quoi, là? Parce que vous voyez, elle avait faim. Elle avait soif. Elle en voulait. Et il y a quelque chose que Dieu cherche dans son peuple, c'est qu'il cherche des affamés. Vous savez, sur les 10 000 qui étaient restés, ils étaient tous d'accord d'aller au combat, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que sur les 10 000, ils étaient tous d'accord de dire au pasteur dans le sondage, oui, il faut plus de réunions de prière. Sur les 10 000, ils étaient d'accord de dire, il faut évangéliser davantage. Je bénis l'équipe du pasteur William qui va tous les samedis à Créteil-Soleil. Oui, je crois que c'est bon. Et puis, il y avait 300 qui disaient, on est assoiffé de voir Dieu agir. Mais pas, on a envie, on est assoiffé de voir Dieu agir. Vous êtes 200 dans cette salle ce matin. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que vous voulez. Oh, j'ai deux petites choses à vous dire. Après tout ça, est-ce que vous croyez que Gédéon, il est bien? Ben non, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien parce qu'il regarde, il n'y a plus que 300 bonhommes derrière. Et il se dit, ben, 300 contre 120 000, ça ne va pas le faire. Et Dieu sait que tu as peur, Gédéon. Alors, si vous étiez à la place de Dieu, qu'est-ce que vous feriez pour aider Gédéon? Dites-moi, allez, trouvez une idée. Comment vous faites quand vous êtes Dieu pour essayer d'aider quelqu'un spirituellement? Quelle est la méthode de Dieu? Vous allez me dire, oui, mais il faut que Dieu lui donne une parole. Ben, il lui a déjà donné des paroles. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu, il y a un moment où Dieu dit, c'est bon, quoi. J'ai déjà passé toute la matinée hier matin à essayer de te parler et à rentrer dans tous tes trucs. Je me suis révélé plusieurs fois à toi et malgré ça, tu doutes. Alors Dieu va faire quelque chose d'original. Dieu dit, ok, va chercher ton serviteur Pourra. C'est le verset 9. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descends, attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pourvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra et écoute ce qu'ils disent. Cela t'encouragera et descend ensuite à attaquer le camp. J'aime Dieu. Vous savez ce qui va remotiver Gédéon? C'est que Gédéon va aller avec son copain, là. Tous les deux avec leurs jambes en coton, là. Ils rentrent dans le camp, il y a les chameaux, 120 000 chameaux, la poussière, les tendre, le bruit, les rires, les cris, les hommes qui boivent, tout ça. Il approche du camp et là, il entend deux soldats madianites qui sont en train de parler entre eux. Et un des soldats madianites dit, j'ai fait un rêve de fou, j'ai vu un pain qui roulait et qui écrasait le camp. Et l'autre soldat lui répond, de l'armée adverse. Le soldat de l'armée adverse répond, c'est un dialogue entre deux soldats de l'armée adverse, et le second répond en disant, mais tu sais pas quoi? Je sais ce que c'est Gédéon qui vient détruire notre camp. Dieu a dit, puisque Gédéon ne croit plus quand je lui parle, je vais le laisser entendre ce que l'ennemi dit de lui. Est-ce que tu sais que Dieu, une des meilleures façons de t'encourager, c'est que ne serait-ce qu'un instant ce matin, tu puisses entendre ce que l'ennemi dit de toi. T'as déjà pensé à ça? Si tu écoutais ce que disent parfois les démons à ton sujet, ça te reboosterait le moral. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « Ah, c'est la galère. Elle s'est remise à prier vraiment. On ne peut pas toucher sa fille. » Parce que les démons sont en train de se dire « T'as vu les efforts là, qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'essayer de bénir l'Église. Elle s'implique. Il y a la bénédiction de Dieu. On ne peut même pas la toucher. » Tu entendrais les démons qui seraient « Mais on est hyper frustrés. C'est quoi son truc là ?» Alors qu'on lui a envoyé tout ce qu'on pouvait contre elle, elle reste fidèle à son Dieu. Lâche l'affaire, c'est bon. C'est une chrétienne, celle-là. Elle appartient trop à Dieu. Cet homme-là, on a réussi à le garder dans le sommeil spirituel pendant 10 ans. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques jours. Là. Il commence à relire sa Bible, à être un modèle dans sa famille. Waouh, c'est la cata! Et tu entends ça, tu dis. Oui, parce que nous, on n'entend que l'autre. On se dit, on n'est pas terrible spirituellement, on n'est pas assez à la réunion de prière, il n'y a pas assez d'intercession, c'est trop peu dans l'équipe d'évangélisation, les enfants sont tous des cas à hurler, ils sont ingérables à l'école du dimanche. Mais tu n'entends pas ce qui se passe dans les lieux, mais pas célestes, les lieux d'en bas. Ils disent, mais tu sais pas quoi, il y a encore 2 monos de plus là qui viennent de se lever. Purée, ils vont tous les gagner. Il y a des combats dans les lieux célestes. Vous savez que les démons croient en Dieu ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils tremblent. Ils tremblent. Mais le problème, c'est que nous, on croit en Dieu et on tremble. Je ne vais pas dire bande de petits démons, mais il y a un problème quand même. C'est pour ça que Gédéon reçoit cette parole de Dieu. Mais arrête de trembler, oh ! Si seulement tu réalises un instant que je suis avec toi et que je ne me bats pas pour l'équipe d'en face. Et bien, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de te plaindre, au lieu de dire « Mais pourquoi, Seigneur, l'église ne marche pas, il n'y a pas assez de... » Tu dirais « Wouh ! Encore 4 de sauvés ! Et ma famille, et j'avais mal, et puis le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit !» Alors le diable arrive et il dit « Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je ne peux pas aller plus loin. Je bénis Dieu pour les encouragements qui viennent des méchants. » Des fois, si tu entendais ce que tes collègues pensent de toi au travail, et on l'aime pas, c'est l'homme, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Elle est encore joyeuse, moi je te dis, elle est bizarre. Elle trafique des trucs le dimanche, elle va dans une église, là, tiens, 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 il y a des trucs là-dedans. Amen, bien sûr qu'il y a des trucs là-dedans. La présence de Dieu là-dedans. Vous savez comment il va réagir ? Il va réagir un peu comme vous, là, maintenant. Apparemment, ça vous a réveillé. Lorsque Gédéon eut entendu le récit, le rêve et son interprétation, il se prosterna, retourna dans le camp d'Israël et dit « Et tout le monde debout ! L'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian !» Ah, juste une petite blague de Dieu, encore regardez. Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes et remit à chaque soldat un corps, une cruche vide dans laquelle il avait une torche allumée. Oh, ça c'est un truc incroyable. Vous avez déjà vu des films d'horreur ? Je ne sais pas si vous avez vu des films d'horreur. Mais vous voyez, dans leur cynisme, leur cruauté, les réalisateurs d'Hollywood, quand ils veulent faire un film d'horreur, ils choisissent vraiment un manoir hanté la nuit. On est la nuit aussi, d'accord ? Là, ce n'est pas un manoir, c'est un camp où il y a des chameaux, ça sent mauvais et tout, bref. Il y a des ennemis partout. Et dans ce film d'horreur de Hollywood, vous voyez la jeune fille de 17 ans et demi, là, avec sa petite lampe torche et ses 2 amis. Dont un très costaud. Et celui qui est très costaud dit, la jeune fille de 17 ans et demi, écoute, on est 3. Toi, tu vas par là. Moi, je vais par là. J'ai envie de dire, mais c'est débile, mais restez ensemble. C'est juste débile de se séparer. Mais en fait, vous avez compris, vous rigolez, vous avez compris que c'est fait exprès pour vous faire encore plus peur. Savez, elle va se faire croquer, la petite mignonne, là. Mais Gédéon, il a tellement pas peur qu'il dit 300, ça fait beaucoup, Seigneur. Hein. Allez, 100 par là, 100 par là et 100 par là. Ouh ! Qu'est-ce qui a changé ? L'ennemi ? Non. Est-ce qu'il a plus d'hommes ? Non, il en a moins. Est-ce qu'il a plus de chances de gagner ? Non, il n'y en a plus du tout. Ils sont 100 maintenant par groupe, c'est n'importe quoi. Et leurs armes, des cruches, d'accord ? Je ne commente pas. Dieu lui donne la tête, dans sa tête, la paix. Si tu as la paix dans ta tête, tu es intuable. Si tu as la force dans ta tête, parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu peux aller dans n'importe quel lit de maladie, tu es bien. Tu peux avoir la pire des batailles, tu es bien. Tu peux avoir la famille la plus dysfonctionnelle du monde, le mari le plus pénible à supporter, la femme qui crie le plus au monde, les enfants les plus tordus, qui changent le plus leurs notes en revenant du collège. T'as rien à craindre, parce que c'est dans la tête que ça se passe. Et Gédéon regonfla bloc, il dit « Pouf, on est nombreux là, allez, 100, 100, 100, on y va, chacun de son côté, et je me mouille et je vais en premier parce que je sais que l'Éternel est avec moi. » Oh, la méthode de Dieu. Vous avez besoin de Dieu, mes amis, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une révélation de Dieu et j'ai besoin d'entendre aussi ce que l'adversaire dit de moi, ça va m'aider. Le temps a passé, je suis très en retard. Je voudrais conclure en voyant ce qui se passe quand même pour la fin de l'histoire. Gédéon, bon, vous avez compris que la victoire, elle est merveilleuse. Combien il va y avoir de morts dans l'armée de Gédéon? Très très peu, puisqu'il y a eu très très peu de moyens. S'ils avaient été 32 000, il y aurait peut-être eu beaucoup de morts. Mais vu qu'ils sont très très peu, il y a très très peu de morts. Ça c'est beau, ça c'est Dieu aussi. Comment gagner avec pas grand-chose? Faites avec Dieu. Dieu limite la casse. Jusqu'au bout, Dieu veut sauver les Israélites. Et pour terminer, quand je tourne le chapitre, je vois au chapitre 8, la fin de l'histoire de Gédéon. Vous aimez le succès? Ouais. C'est pourquoi il n'y a qu'un Américain qui dit oui au succès. Les Français, on a un problème! C'est pourquoi ça serait un péché d'avoir du succès, mes amis? Et vous n'êtes pas prêt de devenir comme Gédéon, hein? Si le fait d'avoir du succès, ça vous fait peur, c'est triste. Vous bloquez Dieu, vous frustrez Dieu. Parce que moi, je suis un papa, j'ai un enfant qui a 2 ans et 8 mois, et je peux vous dire, j'aimerais qu'il ait du succès. Non? Les parents dans la salle, vous voulez pas que vos enfants aient du succès? C'est quoi votre blocage alors? Dieu veut que vous ayez du succès, c'est votre papa dans le ciel. Il veut que vous ayez du succès dans votre vie familiale, il veut que vous ayez du succès dans vos finances, il veut que vous ayez du succès au travail, du succès pour vos enfants. Maintenant, après, écoutez-moi bien, avec le succès vient d'autres problèmes. Et ça, c'est une autre histoire, et c'est la fin de l'histoire de Gédéon. Il a eu un succès formidable, mais il y a une tentation, parce que à chaque niveau correspond une tentation. Et je termine ce matin, parce que au verset 22, il est dit « Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils, puis ton petit-fils te succéderont. » Ah, c'est alléchant, mes amis. Il a gagné, il mérite les lauriers. Et on arrive vers lui avec une couronne héréditaire. On lui dit « Waouh, t'es un champion ». Il commence à chanter « Gloire à Gédéon, gloire à... » Ah, j'aime ça. Mais c'est super dangereux. Parce que la tentation du pouvoir et de l'argent, ça peut faire tomber les meilleurs. Et Gédéon, dans un premier temps, va bien réagir. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Gédéon leur répondit « Non, je ne règnerai pas sur vous. Mon fils ne vous gouvernera pas non plus et c'est l'Éternel qui règnera sur vous. » Oh, c'est beau ça. Ça veut dire que Gédéon a lu, il sait que Dieu a dit « Je suis un Dieu qui ne supporte pas de rivalité. Je suis au premier et je vais être sur le trône de ta vie. » Mais pas quelqu'un d'autre sur le trône de ta vie. Et laisse personne te mettre toi-même sur ton trône. Mais je lis quand même malheureusement verset 24. Puis il ajouta, j'aurai cependant une demande à vous faire. Vous savez que quand vous parlez bien, vaut mieux vous taire après. Le problème des pasteurs des fois, c'est que c'était pas mal au début de la prédication, mais ça dure trop longtemps et à la fin, c'est pas bon. C'est pareil pour les prophéties aussi. Je suis vrai avec vous. Des fois, il y a une pensée de Dieu, ça commence très bien, puis après... Des fois, quand tu essaies d'encourager quelqu'un, tu commences tes spirituels à la fin, c'est juste toi. Et il y a un problème si tes paroles ne collent pas avec tes actes. Il ajouta, j'aurais cependant une demande à vous faire, donnez-moi chacun une boucle d'oreille prise sur votre butin. C'est pas grand-chose, une boucle d'oreille, un peu d'or quoi. Vous me donnez un petit quelque chose les gars. Les ennemis portaient en effet des boucles d'or car ils étaient ismaélites. Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils sont reconnaissants avec Gédéon, ils ont envie de l'aider. Ils étendirent un manteau par terre et chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandés pesaient près de 20 kg en tout. Ouh! Ça fait beaucoup, hein? 20 kilos d'or, mes amis, vous avez vu le prix du lingot aujourd'hui? Ben, c'était pareil à l'époque. Alors, monsieur Gédéon, le plus jeune de sa tribu, de Manassé, de rien du tout, de une personne très ordinaire, même s'il dit « je ne veux pas être roi », il prend un butin de roi. Je vais un peu plus loin, verset 27. « Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prostitua en rendant un culte, de sorte que cet éphod, que cette statue, devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. » Il est devenu trop riche, le gars. Il est devenu trop puissant et il a commencé à... un piège. Ainsi, les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ne se relevèrent pas de leur défaite aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire pendant 40 ans, le pays jouit de la paix. Yérubaal, fils de Joas, c'est-à-dire Gédéon, s'en retourna dans sa maison, il y demeura. Et au verset 30, c'est écrit, Gédéon eut 70 fils car il avait de nombreuses femmes. Ouais. C'est dommage, hein, quand une histoire commence aussi bien, il finit pas très bien. Une épouse de second rang, d'autres disent une concubine, habitant à Sichem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimélec. Gédéon a dit, je ne règnerai pas sur vous, je ne serai pas votre roi, c'est l'Éternel qui règnera sur vous. Mais il a pris un butin de roi. Il s'est fait un harem de roi. Et pour terminer, parmi tous les enfants qu'il a eus, légitimes et illégitimes, il y a un petit bonhomme un jour qui vient au monde. Comment il l'appelle ? Comment il l'appelle ? Abimélec. Vous savez ce que ça veut dire, Abimélec ? Mon papa est roi. Attends, Gédéon, c'était pas ça qui était prévu au départ. Seulement, il est en train de mettre une sale mentalité. Et finalement, même s'il ne dit pas, il prend le butin d'un roi, il prend le harem du roi, et il appelle son fils, t'es le fils de roi. Et là, il est tombé dans le piège de la réussite. Vous voulez du succès, mes amis? Eh bien, demandez à ce qu'il vienne en son temps et travaillez votre caractère avant. Parce que sinon, après avoir perdu, le diable aura sa revanche. Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Garde-moi de l'infidélité, garde-moi de l'argent. Que je reste toujours petit à mes yeux. Amen. On va fermer les yeux ensemble. Oh, Gédéon. Il y a des Gédéons dans cette salle ce matin. Il y a des Déborahs, il y a des Gédéons. Il y a des personnes qui présentent à Dieu plein d'excuses en disant « Voilà Dieu, je ne peux pas m'engager avec toi parce que je ne vis rien. Je ne vis rien, moi je n'ai pas vu les prodiges qu'ont vu les autres. Je n'ai pas de témoignage. Moi je ne sais pas parler dans l'église, je ne sais pas prier à haute voix. Je ne peux pas te servir. » Et Dieu dit « Vaillant héros. » Peut-être certains répondent à Dieu en disant « Mais non, Seigneur, ma famille, c'est n'importe quoi, j'arrive déjà pas à gérer. » Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfaite pour t'utiliser. Dieu voit en toi ce que tu ne vois pas. Oh. Ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, Dieu te dit, va écouter le camp de l'ennemi. Ils ont peur de toi. Toi, tu te considères comme nul, comme spirituellement pas assez engagé, pas assez sérieuse, pas assez fidèle en tant qu'homme. Et Dieu dit, Dans le camp de l'ennemi, ce n'est pas ce qu'ils disent de toi. Dans le camp de l'ennemi, ils ont peur que tu te lèves. Dans le camp de l'ennemi, ils ont peur que tu arrives. Parce qu'ils savent que si l'Éternel est avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Jésus. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui veut se lever pour Dieu? Qui dit, comme Gédéon a dit, si notre Dieu est pour nous, si mon Dieu est avec moi, et que j'ai la paix dans ma tête, rien ne pourra m'arrêter. Et rien ne pourra m'arrêter. Est-ce que tu veux te lever à ta place? Tu peux se lever dans cette salle?
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre
vous dire quelque chose ce matin. Pour conclure, on va se quitter dans quelques instants. Mais je voudrais qu'il y ait une vague dans ce lieu où pendant quelques instants, il y ait un combat spirituel. Et je voudrais vous challenger, maintenant c'est trop facile, ne partez pas seulement en ayant entendu la parole de Dieu et que ça ne change rien. On va prendre juste un tout petit moment. Commencez à prier Dieu. Il y a un domaine dans lequel vous partez perdant, priez que Dieu change ça. Regardez là où vous partez perdant, l'un domaine où vous dites « je ne pourrai jamais réussir ça » et commence à dire « Seigneur, car notre Dieu est pour nous, rien ne pourra m'arrêter, puisque Dieu est avec moi, rien ne pourra m'arrêter. » Commence à dire « Seigneur, je proclame que tu es Dieu, je proclame que tu tiens ma famille, Seigneur. » Là où je suis en train de perdre pied, où je considère que je n'ai pas été à la hauteur, je veux croire que je suis un vaillant héros, que je suis une vaillante héros de l'Éternel. Commence à prier, à dire « Dieu, prends le pays qui est promis dans ma vie. » Commence à dire « Satan, je mets une limite maintenant parce qu'il y a un Gédéon qui se lève. » Oh, alléluia, il y a un domaine de ta vie dans lequel tu pars perdant. Commence à dire « Seigneur, pose ta main sur cette situation. Je vis cela comme un échec, donne-moi de voir cela comme une opportunité. » Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu.